Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue à chacun et à chacune. Ça fait un peu bizarre, effectivement, que vous soyez vous chez vous et nous ici. Mais quoi qu'il en soit, que l'on soit rapprochés, proches les uns des autres ou un peu éloignés pour quelque temps, je crois que de toute façon, notre Dieu ne change pas. Il est avec vous, il est avec nous, il est même en nous. C'est en tout cas ce que dit... Eh bien, la parole de Dieu, l'Écriture, et nous le croyons. Merci au Seigneur pour ce temps, eh bien, de louange et d'adoration. Et je crois que vous, comme nous, vous à la maison, je crois que le Seigneur va aussi vous bénir. Je suis convaincu que Dieu a quelque chose à vous dire, à me dire. Nous avons vraiment besoin de vivre quelque chose de plus avec le Seigneur. Et c'est dans ce... dans cette orientation-là que je voudrais vous emmener, si vous voulez bien, ce matin, en faisant une première lecture dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 5, et on va lire à partir du verset 6. Première épître de Pierre, chapitre 5, et à partir du verset 6. Voici ce que nous lisons ensemble. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Il ne s'agit pas ici d'avoir peur du diable. Il ne s'agit pas d'avoir peur de l'ennemi, des circonstances, que sais-je encore. Mais la Bible nous invite, et Dieu, à travers ce texte, nous invite à lui résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Et si quelqu'un ce matin pense qu'il est sur le point de fléchir, pense qu'il est faible, pense qu'il va se faire avoir peut-être par l'ennemi, pense qu'il est en train de perdre ses forces. La Bible ici nous dit qu'il nous vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. Non, ce n'est pas toi, ce n'est pas le chrétien, ce n'est pas le fils ou la fille de Dieu qui va fléchir, qui va baisser pavillon, si vous me permettez l'expression, mais c'est le diable qui perdra. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a déjà été vaincu sur la croix. Alors, ce n'est pas nous qui allons aller à la défaite, mais c'est l'ennemi qui est déjà défait. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Est-ce qu'on pourrait courber nos fronts quelques instants et prier, demander au Seigneur eh bien, qu'il nous visite et qu'il nous parle vraiment par son Saint-Esprit. Seigneur, sommes là bien sûr à quelques-uns et beaucoup à la maison. Je te prie, Seigneur, pour que nous soyons auprès comme au loin, que ton onction, Seigneur, soit déversée dans nos cœurs, dans nos vies. Viens bénir nos maisons, Seigneur. Viens bénir nos familles. Viens bénir nos cœurs. Viens bénir nos corps. Viens, Seigneur, conduire toutes choses maintenant par ta parole. Je te prie vraiment, Seigneur, pour que, au-delà des mots, il y ait vraiment l'onction, une pleine onction de l'Esprit Saint sur nos cœurs, sur nos vies, et que vraiment par ta parole, tu puisses toucher un cœur ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Trouvons dans ces quelques textes, quelques versets que nous avons lus ensemble, nous trouvons bon nombre d'enseignements. Si on voulait s'arrêter sur chaque verset, je crois qu'il y en aurait pour un certain temps, mais je voudrais juste me limiter aux deux premiers versets que nous avons lus, verset 6 et le verset 7. Et nous les avons souvent lu, médité ces textes. Et très souvent, on s'arrête sur le verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Et puis, je pense que ça ne vous a pas échappé, vous l'avez remarqué, le verset 7, il y a avant le verset 6. Mais j'irai un peu plus loin quand même, ça c'est un peu une lapalissade comme on dit. Mais je remarque que le verset 6 et 7, c'est en fait la même phrase. Dans nos Bibles, ça a été découpé en versets, mais en réalité, ce sont là deux notions que Dieu veut nous donner et qui sont indissociables. Alors certes, il y en a une qu'on préfère à l'autre. Je préfère me dire « Décharge-toi, David, décharge-toi sur le Seigneur et tu verras ». Et nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis la première partie de la phrase « Humiliez-vous donc », ça me plaît déjà beaucoup moins. Ça ne plaît pas en tout cas à ma chair, à mon moi. Mais en même temps, je crois que c'est totalement indissociable. Je crois que pour être en capacité de vivre le verset 7, cette deuxième partie de cette phrase, il nous faut d'abord vivre le début de la phrase. C'est une évidence. Je ne suis pas prof de français, mais loin s'en faut. Mais ça me paraît tellement évident finalement. Et c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux lorsque j'ai lu ce texte. C'est vrai que je n'avais pas forcément fait attention à ça, mais c'est tellement évident. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Et c'est le premier point que je voudrais aborder avec vous. Alors tout de suite, rassurez-vous, Dieu n'est pas là, Dieu ne veut pas nous humilier à la manière des hommes. Je pense que tous, nous avons à un moment donné connu cette notion d'être humilié par quelqu'un qui a voulu nous écraser, qui a voulu nous coller la honte, comme on peut dire parfois. Ce n'est pas de cette humiliation-là que Dieu veut que nous vivions. Mais dans le mot humilié, au sens biblique, il signifie une âme qui perd son orgueil. Avoir une opinion modeste de soi-même, une opinion modeste, pas non plus se rabaisser, pas non plus se dire « je suis plus bas que terre, je ne vaux rien ». Bien sûr que non. Souvenons-nous que c'est Dieu qui nous a créés, nous sommes créés à la même image que lui. Si nous disons que Dieu est magnifique, glorieux, ce qui est la réalité, nous sommes aussi beaux et belles aux yeux de Dieu. Mais en même temps, ayons une opinion modeste de nous-mêmes. Cela signifie également se conduire sans prétention, être dénué de toute arrogance. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me prend de haut, bon, il n'a peut-être pas trop de mal pour certains, mais comprenez ce que je veux dire, qu'il me prend de haut et qu'il me prend pour le moins que rien. Franchement, ça ne fait pas plaisir. Et en plus, on n'a pas trop envie d'engager de conversation avec lui. On n'a pas envie d'aller plus loin avec lui. On n'a même pas envie de travailler avec lui. Parce qu'il est arrogant. Parce qu'il est méchant, quelque part. Et le Seigneur nous invite à peut-être délaisser, si c'est un peu votre trait de caractère. Ça peut arriver. Seigneur vous invite, m'invite, nous invite à délaisser ces choses, toute espèce, toute forme d'orgueil. Devant Dieu, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous présenter comme on le fait parfois devant les hommes. Les hommes nous voient notre apparence. Ils voient si je fais un grand sourire, si j'ai des beaux vêtements, si je parais. Mais ce n'est qu'une parure. Dieu regarde au cœur. Dieu nous connaît. Je dirais même que Dieu nous connaît même mieux que nous nous connaissons parfois nous-mêmes. Je ne sais pas pour vous, mais il m'est déjà arrivé de m'étonner de la réaction que j'ai eue suite à un événement particulier. Je me suis déjà dit, mais jamais j'aurais pensé que j'aurais réagi de telle manière. Dieu sait, Dieu nous connaît. Il sait aussi que nous sommes que des pécheurs, tous et toutes, les uns et les autres. Des pécheurs, oui, c'est vrai, mais des pécheurs sauvés par grâce, des pécheurs rachetés par le prix de son sang, parce que nous n'avons rien fait d'extraordinaire. C'est lui qui a tout fait sur la croix. C'est lui qui a fait l'extraordinaire, qui est mort sur la croix. On a commémoré il y a quelques instants sa mort, mais aussi sa résurrection. Parce que nous croyons que si Jésus est mort, à cause de nous et pour nous, nous croyons aussi, selon les Écritures, qu'il est glorieusement ressuscité. Alléluia! Sinon, ben, notre rassemblement, nos réunions, notre foi ne serviraient à rien. Mais notre foi est basée sur un Dieu vivant et glorieux. Alléluia! Alors, il sait bien que nous sommes effectivement sujets à la faiblesse. Et je crois que toute forme d'orgueil, de suffisance face à lui sont vraiment malvenues. Quand je considère, quand je prends quelques instants pour méditer et analyser ce que Dieu a fait pour moi, Dieu le Père, mon Créateur, a donné son propre Fils Jésus-Christ pour que moi j'aie la vie, franchement, je ne valais pas le coup, je ne valais pas la peine. Et je pense que personne ne peut dire, mais s'il y en avait un qui méritait d'être sauvé, c'est bien moi. Je ne pense pas que ça existe sur cette terre, que ça n'a jamais existé. Mais Dieu, par amour, l'a fait. Qui sommes-nous devant lui? Que pouvons-nous faire face à sa grandeur, à sa splendeur? Nous ne sommes rien. Et c'est pour cela que, une fois de plus, on ne peut pas nous enorgueillir de quoi que ce soit. Je dirais même que même si tu as réussi dans la vie, certains réussissent dans le domaine professionnel, ils deviennent des patrons, ils deviennent des gens bien placés, bien connus, etc., etc. Mais si Dieu ne t'avait pas donné l'intelligence nécessaire, tu ne serais pas arrivé où tu es arrivé. Je crois que tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu, que ce soit notre réussite. Elle ne vient pas de moi. Béni soit Dieu pour ceux qui arrivent, pour ceux qui avancent, pour ceux que Dieu a mis un peu plus haut que d'autres. Tant mieux pour eux. Et béni soit Dieu pour cela. Mais ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta grande intelligence ou que sais-je encore que tu en es arrivé là. Il n'y a donc aucune raison pour nous, êtres humains, d'être orgueilleux de quoi que ce soit. L'apôtre Jacques dira dans Jacques chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais en revanche, il fait grâce aux humbles. Il fait grâce à ceux qui ne se prennent pas la tête. Il se fait grâce à tous ceux qui se confient en lui. » Alors, qui sont ces hommes, ces femmes que la Bible va qualifier d'humbles devant le Seigneur? Est-ce ceux qui se disent « Ah, moi, frère, je vaux pas grand-chose, vous savez, je ne vaux rien. » Ce n'est pas ceux qui se dévalorisent sans cesse, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Ce n'est pas ceux qui vont se mettre plus bas que terre, dans leurs paroles en tout cas. Parce que parfois, on remarque qu'il y a une différence entre ce que l'on peut dire devant d'autres et ce que l'on pense de soi-même au fond de notre cœur. Ce que je voudrais vous dire, tout simplement, c'est que le Dieu qui nous a créés, c'est sa vie, c'est son amour qui coule dans nos veines. La Bible déclare que nous sommes aimés de Dieu. Tu n'es donc pas rien, tu n'es pas donc plus bas que terre, bien au contraire. Et j'en veux pour preuve, je l'ai dit il y a quelques instants, le Père a donné son propre Fils pour nous. C'est dire combien Dieu nous aime. C'est dire combien son amour est grand pour chacun de nous. Alors on n'a pas le droit, tu n'as pas le droit de dire que tu ne vaux rien parce que tu es précieux et précieuse aux yeux de Dieu Mais ça, nous le savons. Peut-être que quelqu'un avait besoin de le réentendre à nouveau. En revanche, Dieu a en horreur l'orgueil, la suffisance et toutes ces choses. Car la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Vous trouverez cela dans les Proverbes chapitre 16, verset 18. L'orgueil précède la chute. D'ailleurs, le plus grand exemple, c'est Satan lui-même. Ou à l'origine, Satan était un ange de lumière, c'était un ange extraordinaire. Mais parce qu'il s'est pris la tête, parce qu'il s'est pris pour quelqu'un, parce qu'il a pensé être plus grand, plus fort, plus puissant que Dieu le Créateur, eh bien il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, ne prends pas le risque, à cause de ton orgueil, de tomber bien bas, de tomber et de perdre ton salut. Que vraiment tu puisses entendre cela ce matin, si c'est le cas, en tout cas, de quelqu'un. Le prophète Michée, au chapitre 6, verset 8, dira ceci: « On t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, aux jeunes filles, jeunes hommes, ce qui est bien. » On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement devant ton Dieu, avec ton Dieu, que tu marches humblement. Et c'est là vraiment une leçon que Dieu désire que nous apprenions. Ce n'est pas inné, l'humilité, la simplicité. On se prend rapidement la tête. On se croit ou on se prend rapidement pour quelqu'un. Il suffit qu'on réussisse à faire 2-3 bricoles dans la vie. Et tout de suite, on commence à se dire « je suis quelqu'un ». Mais si je suis ce que je suis, dira l'apôtre Paul, c'est par la grâce de mon Dieu, c'est par sa puissance, c'est par sa bonté envers moi. Cela signifie tout simplement que toi comme moi, nous avons besoin de Dieu pour continuer à avancer dans la vie. Nous avons besoin de lui dans tous les domaines de notre vie. Tout ce que nous pouvons faire de bien et de bon, c'est par sa force. C'est par sa puissance et c'est par son pouvoir. Et nous devons juste, tout simplement, le reconnaître comme tel. Je voudrais poursuivre un peu plus loin. Peut-être dire, pour terminer sur ce point, que peut-être quelqu'un, et tu es peut-être ce quelqu'un, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de juger, ni de te juger. Mais si tu ressens qu'il y a dans ton cœur des racines, une tendance à l'orgueil, je t'en supplie, avant que le diable ne te piège à travers cela, eh bien, repens-toi devant le Seigneur et viens en toute simplicité, en toute humilité à ses pieds. Je crois qu'il est prêt à pardonner. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous l'avons déclaré tout à l'heure, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et au verset 6, le premier verset que nous avons lu ensemble il y a quelques instants, nous avons lu « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu ». Et il y a une suite « Afin qu'il vous élève au temps convenable ». Je crois que Dieu attend que nous soyons des frères, des sœurs, des croyants simples, humbles, avant de nous donner des fois une tâche à accomplir, avant de nous élever, entre guillemets. C'est vrai que certains ont des responsabilités, même au sein de l'Église, un peu plus, on va dire, nous, humains, on va dire, plus importantes que pour d'autres. Mais Dieu ne confiera jamais un service, quel qu'il soit, à quelqu'un qui se prend la tête, à quelqu'un qui se prend pour quelqu'un. Sois humble. Vis en toute simplicité ta foi devant Dieu et tu verras que Dieu va t'élever au temps convenable. Et maintenant que ce point est réglé, je voudrais passer à la suite de la phrase, au verset 7, où ce verset nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». La version Parole vivante traduit le texte ainsi « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous ». Comme nous le connaissons bien, ce texte. Mais en même temps, combien nous avons du mal à le vivre. Il est particulièrement facile à dire, à exprimer même à d'autres. Mais mon frère, ma sœur, tu passes par, mais confie-toi en Dieu, mais décharge-toi sur lui. Moi, quand tout va bien, quand ça baigne, je suis capable de dire ça à tout le monde. Mais quand c'est moi qui commence à être touché, non pas touché, coulé, mais touché par un problème, par un besoin, par une maladie, que sais-je, peu importe, je réalise que finalement, ce n'est pas si simple que ça. Déchargez-toi, déchargez-vous sur lui. Finalement, que c'est difficile à vivre. En fait, l'être humain, c'est la réflexion que je me suis faite, je vous la livre telle qu'elle, je trouve qu'on est quand même bien compliqué dans notre tête. On sait pourtant que face à un certain nombre de soucis, de problèmes, de besoins, on n'a pas les capacités. Si le médecin me dit, voilà, tu es atteint du cancer, tu es atteint d'une sclérose en plaques, tu as ceci, tu as le cœur qui s'en va. Bon, qu'est-ce que je peux faire, moi ? Je ne peux rien faire. La Bible dit, est-ce que c'est avec vos soucis que vous allez pouvoir rallonger le temps de votre vie ? Et j'ai envie de dire, mais est-ce que c'est avec mes soucis que je vais pouvoir régler mes problèmes ? Est-ce que c'est à force de soucis, de tracas, de me gratter la tête ? Est-ce que c'est à force de ça que je vais trouver la guérison, que je vais trouver un travail, que je vais trouver une maison ? Que sais-je encore ? Mais bien sûr que non. Et je le sais. Et vous le savez aussi. Et pourtant, c'est plus fort que nous. À chaque fois, on y va. Et il faut un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, avant qu'on se dise, mais qu'est-ce que je fais ? Je ferais mieux de tout déposer auprès, au pied de mon Seigneur, au pied du Maître. Parce que ça aussi, nous le savons, c'est Dieu qui a la solution. C'est Dieu qui a notre solution. C'est Dieu qui connaît déjà la solution. Si je suis malade, le Seigneur sait où cette maladie va m'emmener. Le Seigneur sait quel est le moyen de guérir. Il sait quand je vais être guéri. Et je prends cet exemple-là, mais traduisez cela pour d'autres choses, d'autres besoins, si vous le voulez. Le Seigneur sait. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous réfugier en lui, en Jésus, dans mon Sauveur. Ce n'est pas de me fatiguer à chercher des solutions. Plusieurs, en faisant cela, finissent par perdre le sommeil, finissent par être même exécrables avec l'entourage. On peut le comprendre. Mais le Seigneur a ta solution. Ce n'est pas à toi de la chercher, de la trouver. Tu n'as pas à courir de gauche et de droite, aller chercher un tel, comment faire, Dieu sait. Et la Bible dit que c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, dans le repos que sera ta force. Ce n'est pas dans l'agitation, ce n'est pas en courant à gauche et à droite que tu vas trouver la solution. La solution, c'est lui. Jésus est ta solution. On le dit souvent dans nos réunions d'évangélisation. Jésus est ta solution pour changer ton cœur, changer ta vie. C'est vrai. Mais Jésus est encore ta solution, pour ne pas dire la seule solution pour ton âme, mais aussi pour la guérison de ton corps, pour la guérison de ton être intérieur, pour tout ce qui t'accable aujourd'hui. Oh, comment c'est possible ! D'être joyeux, d'être heureux, lorsqu'on a la tête remplie de soucis et de tracas. Et pourtant, Je ne rêve pas. Lorsque l'apôtre Paul dit aux Philippiens, chapitre 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et puis comme si qu'on n'avait pas éventuellement compris, il dit « Je le répète, réjouissez-vous ». Et là, j'ai envie de dire « Mais écoute, Paul, tu vis sur une autre planète ou quoi ?» Tu nous dis « Réjouissez-vous », mais avec tout ce qu'on vit, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qui me tombe sur la tête, avec ce que vit mon foyer, mon couple, ma maison, ma famille, comment me réjouir ? Mais ce n'est pas possible ! Et pourtant, l'apôtre Paul, ce n'est pas quelqu'un qui vivait dans une maison dorée où tout lui était épargné. Vous connaissez sa vie, je ne vais pas venir dessus, mais plusieurs fois il a été lapidé, laissé comme mort, plusieurs fois il a été enchaîné, il a été battu, etc., etc., etc. Il était capable de dire, et pas seulement juste du blabla pour faire bien dans le décor, mais de vivre, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, si tu es capable de te réfugier en Jésus, si tu es capable de tout lui confier, comme on l'a lu au verset 7, si tu es capable de te décharger sur lui, il n'y aura plus ce pesant fardeau qui t'écrase et qui te fait tant souffrir, mais tu seras capable de te réjouir dans le Seigneur. Certes, le besoin sera toujours là, encore pour quelque temps. Certes, tu pourras toujours dire « j'ai ceci encore, mais le Seigneur s'en occupe ». Il y a comme un poids qui est ôté, et ça c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Alors que le Seigneur te donne de réaliser ce matin que tu n'as rien à craindre, puisque ta vie est entre ses mains. À partir du moment où tu lui as donné ta vie, où il vit en toi, que t'importe que tu vives ou que tu meurs, nous dit un vieux chant, que tu vives ou que tu meurs, tout est bien, tout est bon, parce que nous sommes en lui, parce que nous sommes en Jésus, et il sait ce qui est le meilleur pour toi comme pour moi. Je n'ai donc qu'à me placer à ses pieds, humblement, comme on l'a vu tout à l'heure, et lui faire connaître tous mes besoins. Et sa promesse est là, certaine, une promesse qui est formelle, évidente, et il agira, nous dit la parole de Dieu. Vous trouverez cela dans les psaumes au chapitre 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, ta foi, et puis tu resteras dans ta galère, et puis rien ne se passera. » Et puis tu continueras à souffrir d'année après année. Ben non, la Bible dit « et il agira ». Il agira en son temps. Ne sois peut-être pas trop pressé. La Bible dit « si la bénédiction tarde, attends-la ». Attends-la, parce que Dieu n'est pas un homme pour dire des belles promesses. Puis ensuite, ah oui, mais ça... Je ne ferai allusion à rien d'autre. Mais Dieu est fidèle. Dieu agit. Il agira certainement. Alors pourquoi chercher midi à 14 heures ? Que sommes-nous souvent compliqués, je trouve. En tout cas, moi, peut-être pas vous, mais moi, je suis quand même compliqué parfois. Alors bien sûr, je ne juge personne parce que je suis le premier concerné par ce message. Mais combien de fois ai-je cherché du secours auprès des hommes, alors que mon secours, il était à portée de main. Il est en mon Dieu. Et je t'invite ce matin à faire de même, à venir à Jésus. Mon frère, ma sœur, je sais que plusieurs, pour ne pas dire beaucoup, traversent des moments difficiles, des moments pénibles, des moments douloureux même. Et je sais aussi combien ces situations pèsent très lourd sur ton cœur. Mais je sais aussi que mon Dieu et ton Dieu a la solution. Il l'a déjà. On l'a dit tout à l'heure, mais je voudrais le redire pour que ça imprime dans ta tête, mais surtout dans ton cœur. Ne cherche pas à gauche et à droite, ne promène pas des regards inquiets, mais regarde à Jésus. La solution est en lui, il la connaît. Je voudrais t'inviter ce matin à répandre vraiment ton cœur devant ton Père céleste. Je t'invite à laisser de côté tous tes raisonnements, parce que souvent ce sont ces raisonnements qui nous perdent quelque part. Ne cherche plus à poser des « pourquoi Seigneur ? Comment ça se fait ? Je ne comprends pas ! » C'est normal que tu ne comprennes pas, c'est normal que je ne comprenne pas. Parce que Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait. Et moi, je ne suis qu'un homme. Je ne prétends pas avoir l'intelligence de Dieu. Alors cesse les pourquoi, mais apprends à lui faire confiance, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Et je le répète, n'a-t-il pas donné son propre fils Jésus pour toi ? Ne t'a-t-il pas aimé ? Ne te l'a-t-il pas déjà prouvé bien des fois ? Si tu comptes toutes les années passées, ce que Dieu a déjà fait pour toi, n'a-t-il pas été fidèle ? Alors, juste une question. Si Dieu a fait des grandes choses pour toi dans le passé, Dieu a-t-il changé ? Ou Dieu est-il toujours le même ? La Bible affirme que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Il est, il sera. Alors, crois que, tout simplement, que le Seigneur va agir en ta faveur, en son temps, ce qui empêche souvent la bénédiction de Dieu, ce qui freine la bénédiction de Dieu, ce qui ralentit l'exaucement de nos prières. Souvent, c'est ce manque de confiance, ce manque de foi. Et je veux, eh bien, quelque part me repentir de ce côté-là et dire, Seigneur, pardonne mon incrédulité, pardonne mon manque de foi, pardonne mes doutes, pardonne toutes ces choses, peut-être mon orgueil mal placé. Et je veux venir ce matin à toi, revenir à toi et vraiment apprendre à me décharger sur toi de tous mes soucis. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais terminer. Je voudrais terminer par ces quelques versets en conclusion. Vous donner donc l'occasion ce matin, même si vous êtes à la maison, même s'il y a de la distance entre vous et moi, je crois que le Saint-Esprit vous parle, en tout cas a parlé à plusieurs. Et ce n'est pas pour rien. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour rien. Mais tu as besoin qu'il y ait un vrai changement, une nouvelle orientation dans ta vie. Je crois que tu as assez souffert. Tu as assez cherché à gauche, à droite. Viens juste maintenant au pied de celui qui sait, qui connaît et qui a la solution. Je crois qu'on l'a chanté tout à l'heure. Dieu est victorieux. Dieu est le tout-puissant. Puissant pour créer, puissant pour redonner vie, puissant pour te guérir, puissant pour te donner du travail. Que sais-je encore ? Quelle que soit votre difficulté, même si tu passes par le deuil, je crois parce que je l'ai vécu. Dieu est capable de donner sa paix, même quand on n'y comprend rien. Vraiment, c'est là le miracle de Dieu. Je crois que si tu marches humblement avec lui, il te communiquera la force nécessaire pour vivre ce que nous avons médité quelques instants ce matin. Je terminerai juste en relisant le dernier verset que nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta bonté. Te rendons grâce pour ta parole de ce matin. Seigneur, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos vies, toi qui connais nos souffrances. Mais ces souffrances, ta parole dit que tu les as portées sur la croix. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Seigneur pour ta fidélité. Apprends-moi Seigneur à vivre humblement devant toi. Apprends-moi à chasser toute espèce d'orgueil. Oh, garde-moi, Seigneur, de l'orgueil. Et garde-moi de me prendre pour au-dessus d'un autre, d'un frère, d'une sœur. Oh, apprends-moi plutôt à regarder les autres comme étant au-dessus de moi. Seigneur, je suis à toi. Je suis sauvé par grâce. Tout ce que je vis, tout ce que je suis, vient de toi. Et je te rends grâce maintenant parce que tu vas donner à mes frères et à mes sœurs d'entrer dans une vie de victoire, que dans les quelques jours qui vont venir, nous puissions entendre dire que un tel ou un tel a été guéri, a été délivré, a rencontré Jésus dans sa vie, dans son cœur. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.